bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
Salut, pardon.
Hey, salut, non ?
Ah, carrément.
J'ai rêvé, François.
Non, t'as pas rêvé.
Violent.
La méchanceté.
La bande originale, soyez les bienvenus. Bonjour. Avec Leïla Kadour
Boudadis,
Daniel Morin.
Bonjour Leïla.
Tom Villa. Tout à l'heure, il y aura Tanguy Passero, Marina Rollman et notre invité Pierre Richard.
Bravo.
Comment allez-vous, Pierre, d'abord ?
Merveilleusement bien.
Bon,
d'abord parce que je suis avec vous.
C'est gentil, c'est très gentil.
Ça je comprends.
Ça se voit et ça se sent quand on vous voit sur scène à la Scala, qui est d'ailleurs, on va parler d'abord de la salle, qui est un théâtre qui reprend ses dettes de noblesse. C'est un nouveau théâtre, faut expliquer.
C'est un nouveau théâtre qui est complètement un peu délirant, d'ailleurs, c'est pour ça que je l'aime bien. Et c'est pas par hasard que James Thierry est venu. Et on a l'impression d'être dans un bateau, un paquebot. Il y avait des coursives, il y a des escaliers qui passent en l'air, en fer, tout ça.
Et c'est... on est très proche du public.
Et on est très proche du public. Ouais. J'aime bien quand oui, je suis aussi près, même plus près que des premiers rangs de chez vous.
Ah oui, mais nous, ils sont pas vrais, nous. C'est des.
Ah non,
ouais. C'est des automates.
C'est des figurants.
Il y a, alors, et puis c'est surtout, l'intelligence artificielle. Et puis surtout, et ça, je tiens à le dire, il y a un restaurant. Et moi, j'aime bien
Vous dites pas foyer, vous.
Un foyer. C'est un peu comme un rond-point. J'aime bien quand il y a un restaurant parce qu'au lieu d'aller ensuite prendre sa voiture pour aller avec des amis ailleurs, on est sur place. Et on y mange très bien.
Très bien.
Bref, je suis très content dans le temps.
et heureux de jouer ce petit éloge de la nuit, que vous interprétez. Alors, c'est Ingrid Astier qui le signe avec la mise en scène de Gérald Garouti. On va évidemment parler de la mise en scène parce que c'est impressionnant la manière dont vous intégrez des images et la scène en 3D, sauf que vous êtes vous-même aussi par moment dans ces images, ce qui donne un jeu de scène absolument fort. On a
un
sentiment, ouais, c'est magique, exactement, un sentiment de sortir. Et puis la nuit, le sujet est passionnant, c'est-à-dire que c'est la moitié de notre vie quand même qui est expliquée dans cette pièce.
Il y en a même pour certains, c'est 75%. Oui, je dis ça parce que...
La nuit, il y a un moment où vous détaillez une liste non exhaustive de toutes les nuits possibles et imaginables. Et c'est vrai qu'on peut passer par tous les états. Il y a des nuits d'amour, des nuits romantiques, des nuits blanches, des nuits d'enfer,
Nuits d'angoisse, des nuits de fou, des nuits, je ne te raconte pas ma nuit. Oui, c'est vrai. Et puis...
Et quelle est la force de la nuit à vos yeux ? Donc c'est qu'elle révèle tout.
C'est extraordinaire parce que moi je suis quand même un solaire. Alors on pourrait croire que je suis radicalement opposé à la nuit. Bon, disons que pour moi le soleil c'est mon grand frère et la nuit parfois c'est mon amante. Voilà.
La maîtresse, la lune est votre maîtresse. C'est bien d'avoir une lune comme maîtresse. D'accord. En tout cas, on est dans ce monde fantastique où il y a beaucoup de poésie. Il y a beaucoup d'humour aussi. Et puis il y a votre présence. C'est là où je dis que je vous trouve particulièrement en forme. Vous jouez de votre corps et de tous les étapes aussi imaginables. Vous couché par terre et vous relevez, chose que Daniel Morin ne peut plus faire à son âge. Et c'est une
Je me relève moins vite qu'avant aussi.
Mais quand même.
Vous vous relevez.
Vous vous relevez.
Il y a des moments où je préfère rester couché, mais je suis obligé de me relever maintenant.
On va continuer de parler de ce petit éloge de la nuit. Donc, c'est au théâtre de la Scala avec Pierre Richard. Mais d'abord, question concernant Pierre Richard. Pendant la COP 21, il a accueilli, Pierre Richard, une star mondiale chez lui. Qui ?
Marina Rollman.
Non. Pas loin.
T'as dit quoi ?
Raoni ?
Exactement.
Allez, voilà. Ça va aller très vite aujourd'hui, je préfère en première.
T'as dit qui ?
Raoni ?
Ah oui, bien sûr.
Vous ne saviez pas ?
Non, c'est parce que j'ai pas entendu Bono, j'ai entendu dans tous les noms.
Okay, non, d'accord, oui, c'est
la bande à Bono, je le chef, un peu vieux.
Le chef Raoni, qui a encore lancé un appel là récemment, et ça donne la chair de poule. On pleure quand on l'entend parler, quand on l'entend raconter les massacres qui se passent dans les forêts amazoniennes.
Ouais. C'est consternant parce qu'on a l'impression, en Amazonie, en 2020 presque, on a l'impression qu'on revit les exactions qui ont dû se passer au XVIIIe siècle, à l'époque où les Portugais, il faut bien le dire, massacraient les Indiens, et on continue à les repousser sans arrêt. Les traités sont constamment
bafoués. Et puis là, le nouveau président, c'est une catastrophe.
C'est une catastrophe, et cette forêt primaire et qui est importante dans la biodiversité de la planète, donc elle nous concerne.
C'est le poumon.
C'est le poumon, mmh. Et bientôt il ne restera plus qu'un demi-poumon, puis bientôt il ne restera plus qu'un quart de poumon. C'est terrifiant parce que, au fond, des forêts aussi importantes dans la vie de la planète devraient appartenir à la planète et pas simplement à un pays. Mmh. Et c'est pas le cas, évidemment.
Et comment s'est fait la connexion?
Et les derniers défenseurs de cette forêt, ben, ce sont les tribus qui y vivent, mais quoi, avec des arcs et des flèches.
Ouais, avant ils se tuaient entre eux, c'est ce que dit le chef Raoni. Avant on se battait les uns contre les autres, et maintenant on se bat pour vivre et survivre et garder son
survivre et garder ce trésor qu'est la forêt.
Il y a juste Tom, je vais te donner la parole. Il y a juste un chiffre qui est hallucinant.
C'est le 3.
Non, c'est le 7. Ce chiffre est hallucinant. 7 secondes. Toutes les 7 secondes, il y a l'équivalent d'un terrain de football. Mmh. Tout le monde voit la taille d'un terrain de football, ou peut l'imaginer s'il n'est jamais allé sur un terrain, mais en ce moment, on en voit pas mal des terrains de foot. Ouais. Toutes les 7 secondes, la taille d'un terrain de football de forêt amazonienne est détruite.
Ouais. Et tout ça pour planter du soja OGM, ouais, d'ailleurs.
C'est ça.
Tout ça qu'on donne aux animaux.
Pour alimenter des vaches.
Mange ici parce qu'on achète des animaux. D'ailleurs, ce serait le seul moyen de les arrêter, ce serait de plus manger des choses qui viennent de là-bas, mais ça c'est, alors là, on rentre dans les problèmes politiques qui ne...
Pas politique, ne plus manger de viande, c'est pas politique, c'est
non.
Juste un...
Non, de viande brésilienne.
Bah, juste, déjà, à la base, tu dis, je mange plus de viande.
Mais moi non plus, mais voilà. C'est pas politique, c'est simplement que j'ai plus envie.
Très bien. Tom, tu voulais dire?
Comment s'est fait la connexion? Comment vous avez rencontré Raoni?
Par un ami qui s'appelle Gert, qui a tourné un documentaire qui dure 2 heures. Sur Raoni et sur la défense des Amazoniens, et comme il savait pas où se loger je lui avais prêté pendant 2-3 mois, il dormait pas chez moi, mais il venait tous les matins, je lui avais prêté une pièce et il travaillait sans, et c'est en regardant je me suis dit mon Dieu, car j'étais pas plus concerné que je le comprends.
Oui,
d'ailleurs
tant qu'on ne sait pas, voilà, on se rend pas
et
compte.
Moi à force de regarder, mais je dis mais c'est épouvantable ce que je vois, c'est et du coup je m'y suis intéressé. Et comme il est un ami de Raoni, il m'a demandé, quand on est arrivé à COP, il me l'a demandé, ou je lui ai proposé, plutôt que d'aller dans un hôtel où on aurait complètement assailli Raoni, en plus, phénomène de curiosité et tout ça. Il m'a dit, tu veux pas le juger, toi? J'ai dit oui, et pendant 15 jours, Raoni est venu chez moi, et c'était extraordinaire. Vous allez voir la tête des voisins du dessus.
C'était une aventure humaine pour vous, aussi, d'échanger avec lui?
Ah oui, complètement. J'avais quand même un traducteur, parce que Raoni parle même pas portugais, il parle caiopo. Alors j'avais un traducteur qui parlait
pas
caiopo. Portugais,
hein? Parlait pas caiopo.
Mal.
Non,
mal. Je comprends. Hein.
Oui, bah comme nous tous, mais.
Et il prend quoi au petit-déj?
Il prenait ce que je lui donnais.
D'accord. Voilà, c'est
mais
comme
il
ça.
Était content comme tout.
Alors qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé chez vous?
Je me levais avant, puis j'étais sur mon petit bar en train de prendre des déjeuners. Et alors lui, il se déplace comme un tapir dans la jungle.
Il glisse sur le sol.
Je l'entends pas, et c'était son grand jeu. J'étais en train de manger tranquillement à 8 heures du matin, et puis tout à coup il arrivait derrière moi, il faisait oublongirou. Je faisais ah. J'ai l'impression d'un fond qui m'attaquait.
Alors
ça ne faisait rien.
Qu'est-ce que ça a changé chez vous à part cette prise de conscience de la destruction de la forêt amazonienne?
Ben ça a changé que je continue un peu dans la mesure du possible. J'ai fait des émissions d'ailleurs. Vous voyez là, vous m'en avez parlé. C'est pas moi qui vous ai sollicité, mais je suis content de pouvoir en parler. Ça a changé aussi que j'ai le film
vous
de Gert.
Vous être ambassadeur pour
d'être l'ambassadeur. J'ai pas cette prétention, d'autant plus que je sais pas ce qu'il a fait là dernièrement. Je le suis pas très bien quand il... Le problème, c'est qu'aucun chef d'État ne bougera. Faut bien se le dire, quel qu'il soit. Hein. Je dis pas français, bien sûr, mais allemand, espagnol. Ils ont tous des intérêts au Brésil, des intérêts financiers. GDF, Alstom, tout ça. Alors pourquoi ils vont pas bouger? Ils font des barrages. Voilà.
Non, il y a un moment où nous tous, à notre petite échelle, à notre petit niveau de consommateur ou consommateur, comme tu aimes bien me reprendre là-dessus. Alors, j'ai pris la leçon, tu as vu.
Non,
hein,
mais
je le fais avant toi.
Parce qu'on a ce pouvoir-là.
On a ce pouvoir-là de décider, en effet, de consommer ou pas, d'acheter ou pas tel ou tel produit. Le jour où on achètera, plus personne n'achètera aucun produit à base d'huile de palme.
Mais ça fait combien de temps?
Les mecs,
combien de temps qu'on dit ça?
Non, mais peu importe. Mais
si, c'est important.
Il y en a de moins en moins.
Et le jour où on n'achètera pas des fraises en janvier, qui n'existe pas en janvier, et qu'on fait venir de je ne sais où. Qui,
mais quand vous parlez du soja, ça veut dire
avions,
que ça concerne aussi notre consommation
de
soja ou pas?
Ouais.
Pardon?
Le jour où on arrêtera de manger, le jour où on mangera les produits du moment, ça évitera d'aller les faire venir d'Afrique du Sud ou je ne sais
où. Bien sûr. Bien sûr.
Et pour quand vous parlez du soja, est-ce que ça concerne aussi le soja qui a pris une place très importante dans notre alimentation?
Non. Non, c'est pas
c'est
le même.
Que le
non,
soja
c'est
pour soja nourrir
céréales,
les animaux.
Soja céréales pour nourrir les animaux, oui,
c'est mais il y a pas que les forêts amazoniennes hein, les indonésiennes aussi, l'Afrique
elle
aussi.
Elle brûle à une vitesse grand V et
c'est pour ça que pour revenir à mon spectacle, ouais. Mon petit éloge de la nuit, la poésie devant un univers comme ça aussi matérialiste, aussi oui, matérialiste c'est le cas de le dire où le dieu argent et roi,
et la surconsommation.
La poésie, c'est un refuge merveilleux dans lequel je suis en ce moment trempé dedans et auquel j'invite les gens à venir parce que c'est une récréation.
Une parenthèse merveilleuse.
Oui, mais qui donne aussi à réfléchir sur son mode de vie, sur son comportement, sur la valeur qu'on donne aux choses.
Évidemment.
Elle aide la poésie. C'est pas qu'une bulle dans son coin. Il y a une interactivité entre les deux. Il y a un rapport entre les deux.
Il y a un rapport.
Ouais. Allez, on revient encore aux questions sur Pierre Richard. Pourquoi une fille l'embarque, Pourquoi une fille l'embarque dans un cours de danse?
Pour coucher avec.
Non, parce qu'il avait une détente extraordinaire et un jour une fille lui dit sur la plage, viens avec moi et il levait la jambe à une hauteur incroyable.
En jouant au volleyball, exactement. C'est comme ça que ça s'est passé? Vous jouiez au volleyball sur la plage et une fille vous dit, viens en cours de danse. C'est faux?
Oui, je joue au volleyball.
Vu la tête que vous faites, j'ai l'impression que c'est faux.
Oui, mais c'est dans une.
J'avais cette spécificité très particulière. Qu'ont d'ailleurs les danseurs, c'est-à-dire que n'importe qui saute et descend tout de suite. C'est forcé, hein, l'attraction. Mmh. Et moi, quand je plongeais, j'avais toujours 2 secondes de plus dans l'air que je me
mettais. Ah, le
gainage d'oiseau.
Les abdominaux.
Non, des câbles.
Non, les abdos.
Le trapèze.
C'est ce que fait Cristiano Ronaldo, c'est les abdos.
J'ai toujours été mieux en l'air qu'à terre, de toute façon.
C'est ça.
Et donc, je jouais au volleyball comme ça, j'étais très mince même. Et puis une fille est arrivée que je connaissais pas et qui me dit, je viens de regarder jouer au volleyball, vous dansez où? Je dis, mais je danse pas. Je dis, mais si, mais pourquoi vous me dites ça? Mais j'ai dit, je vous dis ça parce que j'avais 17 ans. J'ai dit, j'ai jamais été au cours de danse, j'étais encore dans les études de bac et toutes ces trucs.
Et la danse, on la retrouve un peu sur scène.
Et alors elle me dit, mais venez demain matin, je vais vous présenter à mon prof de danse qui est une Russe d'ailleurs. Hein, c'était mes premiers contacts avec les Russes, oui.
Ah.
Tania Balachova. Balachova, bon bref. J'étais au cours de danse, et puis il y avait plein de danseurs, puis elle m'a dit, bon, mais un peu grognon, mettez-vous là. Et puis c'est vrai que tout le monde faisait ça, et puis moi je faisais ça.
Avec la jambe.
Alors elle m'a dit, vous n'avez pas le droit de ne pas faire de la danse. Voilà. Ce serait une honte que vous n'en fassiez pas.
La tolérance des Russes.
La sept
souplesse. C'est exactement ça, la tolérance des Russes.
Alors j'ai eu très peur.
Je comprends.
J'ai fait de la danse. Non, mais...
non, mais vous dansez sur scène.
Ouais, un petit peu, mais maintenant, oui. Ça devient poussif. Hein.
Non, c'est pas
possible. Non, c'est parce un des mérites de Gérald, c'est que Gérald, qui est quand même un metteur en scène shakespearien, Garouti, et qui monte des Shakespeare à Londres, c'est pas intellectuel, tout ça. Et je lui dis, mais quand on s'est rencontré grâce à Ingrid Astier, qui était, je lui dis, mais qu'est-ce que un metteur en scène shakespearien voire à faire d'un acteur burlesque? Et en fait, ça s'est très bien passé quand on s'est rencontrés, parce que je me suis aperçu. Mais moi, je crois toujours qu'il y a certaines gens qui m'aiment et puis beaucoup qui m'aiment pas. Et lui, il m'adorait. Et le mérite de Gérald, justement, c'est à la fois d'être très exigeant sur les textes et sur mon articulation. Ça, c'est, il me le dit tous les soirs. Je parle, il me dit de temps en temps, tu dois articuler, pense à, comment il s'appelle, je peux lui dire les noms, qui est le spécialiste de la poésie.
Fabrice Lucchini.
Voilà. Il me dit, pense à Fabrice Lucchini, tu parles comme ça. Moi. et en même temps, il avait cette ouverture qui fait qu'il s'est servi de moi aussi parce que je bouge, je me déplace.
Vous avez la grâce.
Je tombe, je me relève. Ouais. Et à un moment donné, pendant la répétition, c'est pour en venir à ce que vous m'avez dit, pendant la pause, parce qu'on travaillait pendant 6 heures de suite ou 7 heures, et à la pause, il avait mis de la musique et puis l'assistante s'est mise à danser. Moi, pour me délasser, j'ai dansé 4 pas avec elle. Et il a regardé, il a fait « je garde ». Je garde, tu le feras dans le spectacle. Et ça a été comme ça sans arrêt.
Vous ne faisiez pas pour une suggestion particulière.
Pas du tout, j'aurais jamais pensé qu'il allait me faire danser Fats Waller sur des poèmes de Ingrid Astier ou d'Edgar Poe. Pas du tout. Et ça a été comme ça souvent les répétitions. Et puis alors on a tourné chez moi dans le midi avec des très belles photos de
la
nuit.
On va parler des images qui viennent après dans le spectacle, mais d'abord écoutons le Fats Waller en question.
C'est ça. Si vous voulez, je vais monter sur la table.
Non, non. C'est plus fort que vous. Quand Pierre Richard voit l'échancrure, la fameuse échancrure dorsale de Mireille Darc dans le film Le Grand Blond, pourquoi reste-t-il réellement scotché sur place?
Parce qu'il avait la même robe.
Non.
Mais devant.
Non.
Ouais.
Il y a une marque, c'est une histoire de parterre, il a une marque.
Non, il est scotché.
Bah, il n'était pas au courant.
Exactement.
Ah,
c'est aussi...
vous découvrez la tenue de Mireille Darc, vous ne l'aviez jamais vue avant.
Mais oui, parce que moi, 3 semaines avant, mais elle était déjà une star confirmée. Moi, je n'étais qu'une star en devenir. Et j'étais quand même impressionné de tourner avec Mireille, si belle. Et je lui ai dit, tu veux pas me la présenter quand même, qu'au moins on déjeune ensemble, qu'on se parle, on va être quand même... amant dans le
intime,
film.
Ouais.
Intime dans le film. Mais oui. Puis les jours passés, puis 8 jours avant, je dis, pense un peu qu'on se dit, oui. Puis 3 jours avant, je dis, on tourne dans 3 jours. Je peux pas l'avoir avant. Oui. Puis finalement, j'ai arrivé le jour du tournage, je l'avais pas vu. Et une fois maquillée, j'ai regardé le maquillage pour voir si elle était pas là, elle y était pas. J'ai frappé à la porte de sa loge, elle y était pas. Et puis finalement, on m'a dit, bon, allez, hop, tu tournes moteur et tout, tu montes l'escalier, me dit Yves, tu sonnes à la porte et elle t'ouvrira. Et donc, j'ai vu pour la première fois mon actrice, ma partenaire, je l'ai vue pour la première fois sur scène, au fond, mais pas avant. Et quand elle a ouvert la porte, évidemment, je suis resté la bouche bée. En plus, elle avait la voix, bonsoir. Je la regardais comme ça et elle s'est retournée
terminé.
Et je me souviens et j'avais pas fait exprès, j'avais pas prévu, j'ai fait bonsoir. Et j'étais complètement.
Et ça veut donc dire que la première prise a été celle qui est restée.
La première prise est celle que il a pas dit bon on en refait une autre comme on fait toujours.
Non, tout était calculé. Après, tout était calculé pour lui. Donc,
et après je lui dis mais pourquoi t'as fait ça? J'ai dit que. Il m'a dit parce que je voulais vraiment voir ton œil quand tu la verrais. Je dis mais alors tu doutes de mes capacités d'acteur. Je suis pas capable de jouer l'étonnement. Il me dit oui mais là vraiment tu l'as bien joué. Ouais,
grande maîtrise.
Allez, dernière question concernant Pierre Richard avant de revenir à ce spectacle Petit éloge de la nuit. Quel est son plus grand regret cinématographique?
D'avoir refusé de tourner avec Xavier Beauvoir.
Non.
D'avoir accepté de tourner avec Xavier Beauvoir.
D'avoir refusé avec De Funès quelque chose, c'est pas ça?
Exactement.
Ouais, j'ai lu un truc
du
genre. Le
corneau.
Non, mais je vais accepter. D'avoir refusé de jouer avec De Funès, l'aile ou la cuisse.
Oui, voilà, mais d'abord, elle avait pas complètement tort parce que c'est pas que j'avais refusé de tourner avec Beauvoir, c'est que c'est mon agent qui m'a dit non. Et je me suis fait influencer par lui et j'ai dit non à Xavier Beauvoir. Et je regrette, ça c'est aussi un regret, parce que peut-être grâce à ce film, j'aurais pu faire un virage plus rapide. Ce qui ne veut pas dire que j'aurais fait une carrière dramatique après, mais j'aurais pu alterner.
Pour quel film de Xavier Beauvoir?
Je me souviens plus du nom maintenant. Je me souviens plus maintenant. Mais je me souviens, après j'ai regretté. Bon, maintenant c'est vrai, De Funès, pour en passer à lui... je l'ai pas fait parce que avec Zidi on en avait beaucoup parlé avant. J'avais fait 2 films avec lui, donc ça aurait été le 3e. On avait beaucoup parlé du scénar. Et puis quand j'ai eu le scénar très tard finalement, peut-être un mois avant de tourner, j'étais complètement désorienté parce que c'est pas du tout le rôle que j'avais envie de faire. Et j'ai jamais tourné dans ma vie un film où j'avais
pas... À contre-cœur.
Où je faisais je jouais un rôle qui me plaisait pas. Parce que ça dure.
Et vous avez vu Coluche? Après, vous avez vu le film avec Coluche?
Oui.
Et De Funès?
Ce qui prouve bien que c'est pas pour moi, parce que Coluche pouvait le jouer. C'est ce que je veux dire par là. Si c'est pour l'un, c'est pour l'autre, ou si c'est, on peut pas.
Pourquoi?
Interchangeable.
Non, mais vous auriez pas fait de la même manière.
Coluche et moi, on était tellement différents.
Je suis d'accord, mais ce n'aurait pas été le même film mais la même histoire.
Toujours est-il que j'ai pas eu envie de le jouer, le rôle. Et d'ailleurs, j'ai téléphoné à Fechner, le producteur, qui m'a engueulé. Et je lui ai dit, écoute, je peux pas tourner un rôle si j'ai l'impression d'aller à l'usine tous les matins. Il m'a dit, à ce prix-là, on peut le faire. Je dis, pas moi. Et puis, le lendemain matin, à 8h du matin, je me souviens, je dormais, j'ai un coup de fil, je prends le téléphone. Bonjour, allô, c'est Louis. Ouf. Je dis, alors Pierre, qu'est-ce que j'apprends? Vous êtes pas de film? Et je dis, Louis, croyez surtout pas, j'aurais été vraiment heureux, mais j'aime pas le rôle et je me sentirais pas à l'aise. Ah bon? Et il me dit, ah bon, mais comment il est le scénario? J'ai dit, ben, le scénario, il est très bien.
Il avait pas lu.
Il est très bien, c'est le rôle. Ah bon? Ah donc, le scénario est bien. Et je me suis aperçu, il l'avait pas lu. Lui, il s'en fout.
Incroyable.
Moi, non, mais lui, il s'en fout. Parce que lui, il peut lire le dictionnaire, il fera rire. J'ai vu souvent De Funès, il n'est jamais aussi bon que dans des mauvais films.
Belle formule.
Parce qu'il est obligé d'aller au charbon. Alors, et le charbon de De Funès, c'est pas n'importe quoi.
Allez, parlons de ce spectacle qui se tient et qui se joue jusqu'au 30 juin, fin du mois, de ce mois de juin à Paris, à la Scala, petit éloge de la nuit. Pierre, vous êtes seul en scène et vous nous embarquez dans ces évocations poétiques, et loin d'être politiques, poétiques de la nuit. Comment c'est construit le projet? Vous êtes arrivé, il était tout écrit, vous avez participé à son élaboration, il y a des citations. On a parlé de vous en début de... C'était avant-hier, avec Roxane, je sais plus.
C'était hier.
Roxane. On a parlé de Cyrano de Bergerac, puisque Roxane est le sujet, évidemment, en toile de fond, il y a Cyrano de Bergerac. Et vous aussi, oui, vous évoquez, vous citez Edmond Rostand dans cet éloge.
Mais c'est-à-dire que c'est parti de Ingrid Astier, qui avait écrit un petit livre. Elle écrit chez Gallimard, hein, c'est pas bon. Et j'ai une grande admiration pour son talent. Elle avait créé le petit éloge de la nuit. Et un jour, elle m'a dit, tu voudrais pas lire quelques pages lors d'un cocktail organisé par justement Gallimard. J'ai dit oui si tu veux. Et j'ai lu comme ça 5, 6, 7 petits morceaux. Et j'ai trouvé du plaisir. Et à la fin, elle m'a dit, ah, ce serait dommage, on pourrait en faire un spectacle au fond. Mais je dis, mais je sais pas. Elle m'a dit, mais j'ai un ami. Je connais Gérald Garouti, c'est un ami, tu veux pas qu'on le rencontre? C'est là qu'elle m'a dit shakespearien, tout ça, j'ai dit oh là là.
Mais vous êtes très impressionné, elle travaille, publié chez Gallimard, lui, metteur en scène shakespearien. On a l'impression que vous avez un sentiment d'être un usurpateur dans ce que vous faites en voyant les autres qui sont brillants, ouais, à Gallimard, Shakespeare, et alors
vous êtes, tout le monde m'impressionne.
Vous êtes Pierre Richard.
Oui.
Sauf moi.
Imaginez de leur côté, eux, quand on leur dit vous allez travailler avec Pierre Richard.
Je me suis aperçu, c'est que Gérald Garouti était très impressionné aussi. Chacun dans son... Alors on s'est retrouvés tous les trois, et puis on a décidé. Alors là-dessus, comment, je suis plutôt d'abord comment. Et puis, Gérald, évidemment, le petit livre, le petit éloge de la nuit, n'était pas suffisant pour faire 1h20, parce qu'on a choisi les textes qui nous convenaient le mieux. Et elle fait quand même une grande partie du spectacle, c'est évident, et j'aime tellement dire ces textes que j'en trouve chaque fois un plaisir, d'autant plus que je la connais, alors que je connais moins Edgar Poe. J'ai pas connu Baudelaire, malheureusement. Au moins, je dis les
que des alcooliques. Allez-y, continuez.
Que des alcooliques. Et je le suis devenu d'ailleurs depuis pour être à la hauteur.
C'est ça.
Alcool
ça
de nuit.
Ça se travaille. Hein.
Et évidemment, c'est tout. Encore plus touchant de dire des textes de quelqu'un qui est en vie que de quelqu'un qui n'y est plus, même si
est-ce que c'est aussi une manière, sans faire de mauvais jeu de mots avec la lune,
je vous vois venir.
Est-ce que c'est une manière pour vous de montrer votre face cachée aussi en jouant un autre style là où on vous attend moins, même s'il continue d'y avoir de l'humour sur
scène?
Il y a
de l'humour, mais effectivement, tout le monde a une face cachée. Et moi, il y a quand même, Dieu merci, des gens qui se sont aperçus que j'étais pas qu'un rigolo histrion qui a fait des films burlesques. Et derrière, il y avait toujours une sensibilité, bien sûr, la mienne, ou même une esprit
profondeur.
De contestation.
Ouais.
Bon, je suis assez multiple quand même, Dieu merci. Et en tout cas, j'ai pris un tel plaisir à... pourtant, ça a été du travail, hein, parce que j'avais pas l'habitude de travailler des textes comme ça. J'ai pris un tel plaisir à les dire, et aller plus qu'à les dire, puisque justement, Gérald voulait pas qu'on se mette sur une table, moi, avec un livre, une jolie petite rose.
C'était pas une lecture, quoi.
Et puis se faire une belle lecture, comme certains font, et c'est tout à fait... Moi, il voulait en faire un spectacle. Alors, on a filmé dans la nuit, c'est quand même rare je me vois trois fois dans l'écran, moi sur scène et trois fois derrière l'écran.
Il y a un gros plan où vous êtes juste, mais tellement beau.
Ah, mais j'ai jamais...
En chemise blanche, avec le soleil, ce gros plan-là, mais on plonge dans votre regard et on a envie de faire un câlin, on a envie de vous prendre dans les bras tellement c'est...
Il est très seul en ce moment.
Non, mais c'est... Il y a une vraie douceur et tendresse.
Je me retourne vers les femmes plutôt, hein, parce que...
Je
vais pas faire, vous voulez qu'on... oui, c'est vrai que j'ai jamais été aussi bien filmé.
Non, mais ça...
Je sais pas, il y avait peut-être un éclairage particulier.
C'est pas ça, c'est qu'on vous voit rarement, en tout cas... Déjà,
depuis, il me dit qu'il faut que je joue le roi Lear, d'ailleurs.
Vous êtes filmé et vous ne dites rien. C'est ça qui est...
C'est ce que je fais le mieux.
C'est quand vous vous taisez, il y a une plus-value. C'est ce qu'il est en train de vous dire.
Quand je parle pas, il y a une plus-value, c'est ça.
Non, je veux dire qu'il n'y a que votre visage, il n'y a que votre regard, il n'y a que votre la blancheur de vos cheveux et de votre barbe, les rides qui marquent votre visage, qui, je sais pas, il y a quelque chose. C'est pas le vieil homme et la mère, mais
j'aurais voulu jouer d'ailleurs.
Voilà, mais on est au bord de l'eau, on est dans une vérité. En disant, il n'a pas besoin de parler. Et personne ne parle à son
bras. Sur une musique superbe aussi, hein, la musique de Laurent Petitgand. Après, j'ai appris que ça ne m'étonne pas qu'elle est superbe. Il a fait.
Je ne sais plus si c'est celle-là. Enfin, c'est Laurent Petitgand, ça. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là.
Oui. Bon, ben, c'est tous les moments qu'il a fait.
Ça, c'est du sur-mesure. Vous avez eu le track pour monter ce spectacle qui a déjà été monté au rond-point. Hein.
Oui, mais je l'ai quand même.
C'est pas parce que vous revenez.
Mais j'aurais
avec...
toujours le track, mais je crois. Pourquoi? Que tous les acteurs ont le track. Mon rentrée en scène, c'est une aventure dont on ignore toujours comment on s'en sortira. Mm-hmm. C'est un peu comme peut-être monter sur un ring de boxe, au fond.
C'est une question de
est-ce
survie.
Est-ce que je vais être KO? Ouais. Est-ce que je vais gagner? Est-ce que je vais. Ouais. On a toujours le track. Je me souviens de Jouvet un jour qui avait rencontré une jeune fille et qui lui avait dit, vous savez, maître, moi j'ai jamais eu le track. Et il lui a dit, ça vous viendra avec le talent.
La mise en confiance.
Hein. Une main tendue.
Voilà. Ça vous viendra avec le talent.
Et qu'est-ce que vous faites, vous, Pierre Richard, avant de monter sur scène pour aller affronter le public?
Avant le ring?
Ouais. C'est ça. Est-ce que vous avez...
De toute façon, moi, je parce que j'ai moins l'habitude du théâtre que du cinéma. J'ai fait beaucoup, beaucoup plus de films que de pièces. Donc, j'ai tout, donc le track. Mais c'est sur... Du coup, je me sens... mais c'est de moi. Je viens toujours 2 heures avant. Il y a des acteurs qui arrivent une demi-heure avant, ils s'habillent en vitesse, boum, ils montent sur scène. Mais moi, j'ai pas cette peut-être aussi cette habitude. Alors moi, je joue à 9h, mais à 7h, je suis déjà dans ma loge. J'ai besoin d'un sas entre la vie, et surtout pour un spectacle comme ça. Hein. Quand je faisais Pierre Richard III, c'était moi, là, c'était bon, je joue aux cartes 3 minutes avant d'entrer en scène. Là, j'ai besoin d'un sas, j'y arrive 2 heures avant, je le relis, et j'essaye de m'extraire de ma journée.
En tout cas, ça marche et on ne peut que vous encourager à applaudir ce petit éloge de la nuit à la Scala jusqu'au 30 juin. Tom Villa, c'est un succès annoncé.
C'est un succès. Bah, et puis oui. C'est beau, c'est ce rapport à la nuit que nous raconte Pierre Richard dans son spectacle. À travers les grands auteurs, c'est mélancolique, c'est romantique, c'est onirique. On y croise la beauté d'une insomnie, le doux murmure des rêves. Mais par contre, on passe pas les mêmes nuits, vous et moi, j'ai l'impression. Déjà, moi, si on veut faire un spectacle, ça va pas s'appeler Petit éloge de la nuit, mais merde, j'ai envie de pisser. Non, pardon d'être trivial, mais on peut en parler 2 secondes. Mais pourquoi on a toujours envie de faire pipi à 6h du matin? J'ai envie de dire à ma vessie, viens, on attend 1h30, 2h. Non, mais c'est chiant, je suis désolé, mais sur le papier, c'est sympa la nuit.
Ça va pas aller en s'arrangeant.
Mais je sais, mais c'est pour ça que ça m'inquiète. C'est pour ça que ça m'inquiète énormément. Mais
le mec, il a 30 piges, il peut pas faire pipi.
Mais pourquoi les galères? J'ai l'impression qu'elles arrivent que la nuit. Vendredi dernier, je vous jure que c'est vrai, je rentre de soirée, il était quoi? Minuit et quart, allez, max 3h30 du matin. Fuite d'eau. Et me voilà épongé comme un con à me dire putain, elle est où l'arrivée d'eau? Tu vois, c'est un exemple qui va parler aux gens qui ont des enfants. Votre gamin, il pète la forme toute la journée, il mange bien, il joue, il rigole. Et bah, devine à quelle heure il commence à tomber malade? 23h. Le petit con, il s'est dit, tiens, tous les médecins, ils sont ouverts. La pharmacie est juste en bas de l'immeuble. Non, je vais attendre qu'il fasse nuit pour tomber malade. Ouais,
c'est plus drôle.
Et oui, mais non, c'est sauf que là, le prince charmant, il s'appelle Docteur Robin. Il se pointe à 2h du matin, ça fait 3h que tu l'attends. Il file un space-fond au gamin. Et après, tu tapes la pharmacie de garde. Alors, la plus proche, enfin, ou la moins loin, ça dépend du point de vue. T'arrives à la pharmacie, il y a 15 personnes devant toi, tout le monde attend dehors. Le pharmacien, il te sert par un hublot, on se croirait au drive du McDo.
Par sécurité, monsieur.
Oui, à ce moment-là, le pharmacien, il se dit, putain, c'est comme ça qu'on voit les gens du péage de Saint-Arnoux. Et en plus, il pleut. Et t'as toujours un mec, il sait jamais ce qu'il est venu chercher. Non, mais refais de voir les autres compresses. Tu fais merde. Et quand c'est enfin à ton tour, il est 8h, la pharmacie de garde, elle redevient pharmacie normale. Et puis le pire, c'est la nuit, c'est les insomnies. Toute la journée, t'es claqué, tu rêves de dormir, le soir, tu te couches, plus rien. Les poètes, ils parlent de la magie de l'insomnie qui permet de créer. Moi, je veux surtout que tu tournes rond dans ton lit, tu comptes les moutons, les chevaux, les vaches, les poules aussi, d'ailleurs, il y a toute la ferme qui passe. À un moment, t'allumes la télé, tu dis, bon, bah, on va regarder Enquête d'action à 3h du matin, il y a bien un truc. T'as vu des flics toute la nuit, t'as dormi 3h, tu pars chez toi, tu croises des gens à la pharmacie de garde, et puis les rencontres qu'on fait quand on se promène la nuit. Vous allez où pour rencontrer des gens remplis de mystères qui se faufilent tels des ombres au milieu de leurs semblables? Moi, la nuit, je crois surtout des pervers et des mecs bourrés qui sortent de boîte. La seule pensée philosophique que j'entends, c'est « Hey, t'as pas une clope ?» Voilà. Donc, alors, peut-être que la nuit, tous les chats sont gris, mais je peux vous dire qu'avec certitude, hein, la nuit dernière, ils étaient 72, je sais, je les ai tous comptés. Allez, bonne nuit.
Merci. La bande originale. Personnellement, ne m'en veux pas, Tom, je préfère Les Nuits de Pierre Richard. Un petit éloge.
Mais je comprends, moi aussi.
Petit éloge.
Il aimerait bien aussi.
Mais oui. Vous avez eu un acteur que vous admirez particulièrement qui est venu vous applaudir à la Générale et ça vous a touché.
C'est à moi que vous... Oui. Bien sûr, c'est à moi.
J'adore.
Michel Bouquet.
Ouais. Ah
ouais. Ouais, j'ai une grande affection pour Michel et réciproque. Et depuis, au fond, qu'on a tourné un seul film ensemble, c'était Le Jouet. Ouais. Et depuis ce temps, je ne savais pas que Michel m'adorait autant. Je pensais que des fois, on tourne un film, puis après, on ne revoit plus les gens. Il est venu à la Générale au Rond-Point. Il est venu tout seul dans ma loge. J'étais seul avec lui. Et il m'a parlé comme... Et je pleurais. J'avais les larmes aux yeux. Depuis, j'ai vraiment une passion pour Michel que je prends pour un grand acteur et que je tente d'imiter. Justement, c'est lui qui m'a dit « Pierre, regardez votre texte tous les jours ». C'est pour ça que je vous dis que j'arrive à 7 heures et que je, tous les D'accord. jours, regarde mon texte avant de le jouer. C'est Michel qui me l'a soufflé.
Il faut travailler.
Même quand
on s'appelle Michel Bouquet, alors, même quand on s'appelle Pierre Richard,
alors, maintenant,
il faut
Bouquet, comment
travailler.
Je l'ai connu, si vous, c'est ça peut-être que... La première fois que je l'ai vu, c'est chez Francis Weber qui me faisait le film. Il nous avait invités tous les trois. J'étais tellement impressionné par Michel que pendant tout le repas, j'ai pas dit trois mots. Francis et Michel parlaient, nanana, du film ou d'autre chose. Et moi, j'étais comme un enfant, je mangeais, puis j'écoutais, c'est tout. Et puis en partant, on s'est retrouvés sur le trottoir tous les trois. Francis nous a dit bonsoir. J'ai dit bonsoir Michel. Et je lui ai serré la main et je suis parti, sauf que mon pied s'était coincé dans une grille et j'avais perdu un escarpin. Donc je suis parti en chaussettes, enfin un des deux, en chaussettes, et je me suis retourné, je me suis aperçu quand même, hein, je sentais bien le froid sur ma chaussette. Je me suis aperçu et je me suis retourné, j'ai dit « Oh, comme un enfant, j'ai perdu ma chaussure ». Et là, Bouquet a éclaté de rire, il a dit « Ah, voyez, monsieur Richard, voilà une chose que je ne saurais jamais faire et je vous envie ». Et à partir de là, la glace a été rompue. J'ai compris qu'il m'aimait bien. Il l'a pas pris de... Voilà une chose que je ne saurais jamais faire.
Ouais, il s'est pas moqué de vous, il vous admirait dans le...
Il m'admirait d'avoir perdu mes chaussures.
C'est ça. C'est ça.
Du coup, on cherche un 43 gauche, mocassin, très beau.
À livrer au théâtre,
un escarpin.
Cendrillon, quoi. Tiens, voilà Cendrillon.
Ah bon? Allez, Marina. Ah les amis, alors que se déroulait le week-end passé la Gay Pride aux États-Unis ou Marche des Fiertés qui aura lieu à la fin du mois chez nous, l'idée d'une Straight Pride ou fierté hétéro a été lancée par un groupe qui, je cite, dépeint les hétérosexuels comme une majorité opprimée. La fatigue. Semaine, je n'en peux plus. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? La Straight Pride, après quoi? La marche des riches, la marche des sosies de Angelina Jolie, la marche des gens qui ont juste un bon métabolisme, la marche des gens qui, non, laisse faire, j'adore faire la vaisselle. Quelles oppressions subissent les hétérosexuels? Quelles oppressions tu subis quand t'es hétéro? Tu te fais tabasser parce que t'es hétéro, on t'empêche de t'embrasser dans des lieux publics, on te harcèle en te traitant de pédophile, pendant longtemps t'allais en prison ou t'étais stérilisé, on t'empêche d'avoir des enfants, on te renie quand tu fais ton coming in, vraiment c'est compliqué d'annoncer à ses parents que t'es hétéro. Mais qu'est-ce qu'on a fait de faux, Jean-Rémy? Ben je sais pas, c'est toi là toujours à le foutre devant cette à la maison, à lui acheter du Axe en lui chantant du Bernard Lavillier. J'ai noté l'information parce qu'elle intervient dans un climat général un peu violent. Il y a un couple lesbien qui s'est fait tabasser en Grande-Bretagne. Il y a le photographe français Olivier Schiappa qui avait réalisé des séries de portraits, je sais pas si vous avez vu, qui mettait en scène des célébrités en couple homosexuel, dont la page a été hackée et le compte effacé. Il y a des stands d'information LGBTQIA vandalisés en France. Il y a des personnes trans assassinées chaque semaine. Et je suis fatiguée, mais je suis vraiment fatiguée. Doivent encore expliquer aujourd'hui. Oui, c'est une réalité. Oui, le monde est fait pour les personnes hétéros, cis et blanches comme moi. Ça ne veut pas dire que si vous êtes tout ça, vous avez une vie facile. Ça veut juste dire que ces caractéristiques-là ne s'ajoutent pas comme un fardeau supplémentaire à plein d'autres trucs tragiques qui peuvent néanmoins évidemment vous arriver. Le système ne vous empêche pas de vivre pour ces raisons. Est-ce que c'est vraiment inacceptable de se dire qu'on n'est pas des anges immaculés, produits parfaits d'une méritocratie totalement neutre, mais que peut-être il y a certains trucs qui sont plus faciles à porter que d'autres, genre être hétéro. Et que donc si on est hétéro, on peut éventuellement écouter, voire aider, si elle le demande, les personnes LGBTQIA plutôt que de vouloir ramener cette foutue couverture à nous. Juste 5 minutes. Est-ce que c'est vraiment inacceptable de, pendant 5 minutes, ne pas dire « Oui, non mais moi aussi, parce que moi c'est plus terrible, moi je suis meilleure que... » Chut, s'il vous plaît. Alors supposément, les militants anti-LGBTQIA ne le font pas pour eux, ils le font pour la famille. Ah, pour les enfants, il faut protéger les enfants de cette grande propagande. Et alors fréquemment, ces mêmes personnes sont chrétiennes et souvent catholiques. Bah dites donc, en termes de protéger les enfants, il n'y en a pas deux, trois qui auraient une petite paille dans l'œil, là comme... Ou c'est une teub de curé, je sais pas, mais il y a un truc qui bouge la vue un petit peu, non? En plus, ils m'ont rien demandé. Mais moi, je trouve ça formidable d'être croyant. Vraiment, les gens pratiquants, religieux, quels qu'ils soient, je pense vraiment que ça peut produire des êtres meilleurs que moi. Sincèrement, vous m'avez pas demandé la permission, mais je vous le dis, si tu veux aller couper du bois, aller à l'église trois fois par jour, avoir 12 gosses, mais sois Charlingal si ça te fait kiffer, je trouve ça très chouette. Mais ça te donne pas le droit d'être une merde avec des gens qui n'ont rien demandé. C'est pas des vases communicants, la religion. Parlons en termes religieux. C'est une bénédiction que tu sois né avec des caractéristiques qui font que tu es dans ce qui est considéré comme la norme. C'est une force. Partage-la. Sois plein de gratitude. Sois dans le don, dans l'amour, dans l'humilité. Tu penses vraiment, là, Jésus, dans sa robe, il aurait dit, il aurait chanté des trucs genre, stop à l'homophobie. Jamais. Jamais. Jésus, il aurait dit, si vous avez de la badoie, je peux faire du prosecco. Il aurait dit, mettez des capotes. Il aurait dit, aimez vos enfants. Mais je veux dire, la violence de ce que ces gens vivent régulièrement, les personnes trans qui sont out sur les réseaux reçoivent des messages genre vraiment j'ai des copines qui m'ont envoyé des gens qui leur envoient des trucs. Moi franchement c'est pas pour être méchante mais je suis pas d'accord. Ah ok, donc on peut autoriser ou pas les gens à exister, je savais pas. Moi je suis pas d'accord, mais on t'a pas demandé si t'es d'accord, espèce de tas de neige, espèce d'arrogant petit paltoquet, on s'en fout. On a juste dit, ces personnes existent, il ne faut pas les agresser. Oui mais moi je... Ta gueule, vraiment ta gueule. Les personnes trans, elles sont environ 15 000 en France. C'est à peu près la population de Plougastel. Donc moi, demain, je peux dire « Non, mais franchement, moi, Plougastel, je suis pas d'accord. » Et les gens à Plougastel, ils sont « Ah bah alors, bon, bah on se met en stand-by, hein, tu nous dis quand t'es à nouveau d'accord. » Et j'en peux plus de ces biologistes amateurs qui regardent des vidéos sur YouTube pour justifier qu'il faut être hétéro, qu'il faut être cisgenre. Mmh. Oui, mais la biologie, ça race, d'accord? T'en sais rien? Et de toute façon, qu'est-ce que ça peut foutre? Le principe de l'histoire des sciences, c'est qu'on avance dans le noir avec une lampe de poche et que donc on comprend que ce qu'on a à vue. Ça veut pas dire que dans quelque temps, on n'aura pas trouvé d'autres choses. À quel moment, en plus, la biologie, ça nous a aidé à mettre en place des politiques sociales intéressantes? L'esclavage, la phrénologie, le nazisme, les doctrines racistes, l'internement psychiatrique des femmes, que des belles grosses réussites, finalement, hein, qui étaient toutes sous-tendues par la science, la biologie, etc. Juste essayons d'être des bonnes personnes. Essayons de pas mettre plus de merde dans le monde. Sur ton lit de mort, tu veux vraiment te rappeler que ce que tu as fait, c'était envoyer un message stupide et méchant à des gens que tu connaissais même pas? Je me rappelle, en 2019, j'ai envoyé à une femme trans que je connaissais pas. Ah mais non, mais je suis désolée, c'est n'importe quoi. C'était le plus beau jour de ma vie. Vraiment, c'est ça ton legs, c'est ça que tu veux laisser à la planète. Mais moi-même, je comprends. Moi-même, je suis immensément transphobe, homophobe, raciste. Pas intentionnellement, mais parce que de base, par défaut, je suis née dans une culture qui fait ça, qui hiérarchise entre les hétéros et les autres, entre les blancs et les autres, entre voilà. La différence entre les gens bien et les autres, c'est que si une fois que tu sais que ça heurte d'autres gens, et ou alors que tu peux leur être utile, eh ben tu changes un peu. Et j'essaie pas de convaincre du bien fondé, je justifie pas, je vous explique pas, je vous mets devant le réel. Les personnes LGBTQIA+, existent, elles fleurissent, elles ne sont pas vouées à disparaître. Peu importe vos réactions, vous n'y arriverez pas. Vous n'êtes pas Dieu, vous ne décidez pas du réel des autres êtres humains. Donc tout ce que vous pouvez faire, c'est contribuer à écrire une histoire dont on n'est pas les seuls vainqueurs. Bon mois des fiertés à tous et à toutes et bonne grève des femmes en Suisse demain.
Merci Marie-Laure. La bande originale,
Lady, sur France Inter.
C'est quoi la grève des femmes?
C'est la grève des femmes. Il y en a eu une il y a 28 ans et on en refait une là demain. Et les hommes évidemment sont invités soit à remplir les tâches que les femmes ne feront pas, soit à être solidaires et à venir faire la grève. Et c'est pour l'égalité.
C'est pas la grève du sexe comme ça a été lancé aux États-Unis, ça n'a rien à voir.
Non.
Grève des femmes.
Grève des femmes.
Les femmes, je suis pas d'accord.
Voilà, exactement.
La bande originale de Pierre Richard. Pierre Richard est au théâtre La Scala à Paris, et ce jusqu'à la fin de ce mois de juin, avec ce petit éloge de la nuit. La musique, évidemment, très présente pendant ce spectacle, mais aussi dans sa vie. En 1950, vous écoutiez...
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être... Si vous avez le temps.
Le déserteur Boris Vian. Tellement forte cette chanson.
Elle est belle. Hein.
Tellement forte. Quand vous l'entendez, elle vous évoque quoi dans votre vie personnelle?
Je dois dire que je suis quand même relativement anti-militariste.
Vous avez déserté?
Hein?
Vous avez déserté ou en tout cas vous avez refusé?
Non, j'ai pas déserté, mais je veux dire. Non, mais tout. Puis en plus, j'adore Boris Vian parce que. J'ai choisi celle-là parce qu'elle correspond à l'année que vous m'aviez suggérée, mais il y en a tellement des belles de Boris Vian, tellement folles aussi. L'inventeur, bombe atomique, tout ça.
Revenons à vous, vous avez été objecteur de conscience?
En tout cas, je ne suis pas objecteur de conscience, pas tenté, mais je le suis au fond de moi-même.
D'accord.
Et on est en 50 et vous avez une révélation. Vous allez au cinéma, vous voyez régulièrement des films et il y a un long métrage qui va vous marquer à vie. C'est « Un fou s'en va en guerre ».
Oui, c'est vrai, j'avais 18 ans. Et je n'allais pas souvent au cinéma parce que j'étais pas d'une famille qui m'emmenait souvent au cinéma. En plus, à ce moment-là, le 18 ans, j'étais à Valenciennes, il y avait deux cinémas dans la ville. On n'avait pas un choix énorme. Et puis un jour, au lieu d'aller au lycée, j'ai bifurqué, j'ai pris le trottoir d'en face. Je suis rentré dans un cinéma qui s'appelait le Novéac pour voir un film. J'ignorais qui était l'acteur principal, Danny Kaye. Et je me suis enfoncé dans le fond, parce que dans les petites villes, il faut faire attention, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui dit après...
Je l'ai vu.
Mais j'ai vu votre petit-fils cet après-midi, il était au cinéma. Comment il était au cinéma? Qu'est-ce qu'il foutait? Il n'était pas au lycée, bref. Et j'ai vu monsieur Danny Kaye pour la première fois de ma vie jouer, chanter. Il était grand, blond. C'était une énorme star de l'époque.
Mm-hmm. Et j'ai eu le coup de grâce. Il dansait.
Et il dansait aussi. Et j'ai eu le coup de grâce. Je me suis dit, en le voyant, en sortant de la salle, j'ai dit, j'ai compris, c'est ça que je veux faire. J'ai pas pu le dire le soir, puisque j'étais pas censé être au cinéma, d'abord. Deuxièmement, de toute façon...
Pris à son propre piège.
Oui, et puis de toute façon, on m'aurait dit non. J'ai attendu d'avoir mes bacs. Je veux dire, d'avoir raté mes bacs. Et après, alors c'est ça l'avantage d'une famille désunie, c'est que... Quand du côté de ma mère, on dit oui, ne serait-ce que pour emmerder du côté de mon père. Donc ma mère a dit viens à Paris, reviens avec moi.
C'est vivre le divorce, quoi.
Voilà. Ouais,
en 1970, vous écoutiez Michel Delpech. Et là, qu'avez-vous comme image avec Michel Delpech?
Oh, j'aimais bien Michel, beaucoup. Il avait énormément de talent. Et puis cette chanson, c'était à l'époque où justement, les fleurs, c'était ma musique, c'était pas que la mienne, c'était puis, tout seul de mon âge.
Ces chansons rejoignent la poésie dont on parle aussi, c'est-à-dire que ces textes racontent des histoires qui évoquent et touchent tout le monde.
Qui touchent tout le monde. Mmh. Et puis il évoque Dylan, et Dylan, c'est mon grand copain.
Et en 70, c'est le Distrait, c'est votre... vous écrivez ce film, vous le réalisez. C'est un grand succès. Tout d'un coup, c'est aussi l'avènement de ce personnage, Pierre Richard, ce grand maladroit. Comment ça vous est venu, cette idée, cette histoire?
Mais l'histoire m'est venue
d'une réalité, non?
Oui, d'abord. Et malheureusement, d'ailleurs, parce qu'en plus, ça s'aggrave. J'ai failli pas venir aujourd'hui parce que j'avais oublié. Bon.
Non, c'est vrai. J'ai lu il n'y a pas longtemps aussi que vous étiez un jour essuyé la bouche sur l'écharpe d'Aznavour à table.
Ouais, mais ça arrive à tout le monde.
Non, il paraît que c'est ça qui l'a tué.
Non,
parce que je dînais avec un ami, je mangeais des pâtes à la sauce tomate. Et puis il est venu à côté de moi, et comme il est pas grand non plus, hein, c'est de sa faute. Et donc je parlais, mais je suis comme un chien quand je mange, il faut pas qu'on m'emmerde. Alors je dis oui, oh bien sûr, ah, bah, je te crois. Je m'essuyais, je m'essuyais. Alors je dis, oh bah oui, bah j'espère qu'on se reverra, oui. Et tout à coup, je dis, elle est bien douce cette écharpe. C'était une écharpe blanche en cachemire qui pendait au mur. Et il a dit, mais c'est mon écharpe, il a dit. Je ne l'ai jamais revu. Des fois, je le voyais partir en vitesse.
Revenons au Distrait. Oui, ça Distrait. Vient d'où, cette histoire, tout d'un coup?
Parce que c'est ivre, moi, j'avais aucune. Franchement, je ne me suis jamais analysé, et même peut-être pas trop encore maintenant, mais j'avais aucune conscience de ce que j'étais. Et c'est Yves qui m'a dit. Avec une brutalité et en même temps une franchise brutale, disant « Tu n'es pas un acteur, tu n'auras jamais de rôle dans les films.
Oh. »
J'ai dit « Tu n'es pas un acteur, tu n'es pas un comédien, tu es un personnage. » Et alors ? Eh ben alors fais ton cinéma toi-même. Et c'est lui qui a eu comme ça cette préscience à mon égard que je n'avais pas. Et un an plus tard, je ne l'ai pas revu. Puis un an plus tard, je suis revenu avec le Distrait, le scénario du Distrait que j'avais créé avec André Roëlan. Que je voyais tous les soirs à la Coupole. Et Yves Robert m'a dit, je produis.
Non, je resituais que la Coupole était une brasserie parisienne pour eux.
Ah bah, qui ne sait pas où est la Coupole.
Bah, quand on est pas à Paris.
Non, si vous avez vu la boum, elle emmène ça, la grand-mère, Poupette, emmène.
C'est vrai. Au tout début des années 80... Là, c'est le danseur que vous êtes qui admirez Michael Jackson.
Je peux pas l'écouter sans avoir envie de danser ou le regarder danser. Je danse pas comme lui, mais je l'imite très bien. Enfin, de moins en moins bien d'ailleurs.
Vous faites le moonwalk, hein? Vous savez faire le moonwalk comme
oui, mais tout ça, oui. Mais le moonwalk, c'était.
C'est le mime Marceau qui
c'était Sophie Marceau.
Non, le mime Marceau. Sophie, avec qui vous avez tourné?
Plus intéressé, oui. Hein.
On l'embrasse.
Marceau, mais. Marceau, mime. Un jour, j'ai dit à Carmé, viens, j'ai deux places pour voir le mime Marceau. Il n'aimait pas le mime, Carmé. Je dis, oh mais non, j'aime pas le mime. Je dis, viens, je suis tout seul ce soir. Et bam, il vient avec moi, on était au quatrième rang. Hein, et puis Marceau commence avec, bien, c'est à la radio, je peux pas faire. Il fait ses mimiques et tout, en silence, avec des gestes très étudiés, tout ça. Et voilà, mon Carmé qui se lève et qui dit, plus fort, on n'entend rien.
Voilà. C'est génial. Oh, secours.
Le génie.
Non mais quelle fut la réaction de
les gens fait chute. Puis moi j'étais enfoncé dans mon fauteuil, j'ai tiré par la manche.
Et le mime Marceau n'a rien dit.
Rien.
Non, c'est une vanne.
Marceau ne dit jamais rien.
On est en 80, Pierre Richard, c'est l'année de la chèvre qui fera 7 millions d'entrées en France, qui fera plus de 35 millions d'entrées en Union soviétique, parce que vous êtes une star aussi là-bas. Initialement, à vos côtés, ça ne devait pas être Gérard Depardieu.
Non, ça devait être Lino Ventura, qui aurait été très bien aussi.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Mais c'est parce que, ça devait être Lino Ventura. Après, un jour, on m'a annoncé que c'était pas lui. Pourquoi? Parce que je l'aurais jamais su, je saurais jamais. C'est peut-être parce qu'il s'est pas entendu avec Alain Poiret, producteur. Peut-être parce qu'il voulait plus d'argent. J'en sais rien. Peut-être parce qu'il m'aimait pas. Je sais pas. Mm-hmm. En tout cas, tout à coup, je me souviens dans le taxi, mon agent me dit, ah, c'est plus Lino. Qui? Et ça, je le revendique parce que après, j'ai entendu des versions différentes. C'est moi qui ai cette espèce de alors que je ne le connaissais pas, qui ai dit j'en vois qu'un, c'est Depardieu. Et je ne le connaissais pas, c'était pas un copain. D'ailleurs, trois jours après, on s'est rencontrés chez mon agent, tous les deux, qui se faisait une joie de nous voir les Depardieu Richard dans le fauteuil. Et en fait, on n'a absolument pas parlé du film, on a parlé que des Mongoliens, moi j'avais mon petit voisin qui était mongolien, lui s'occupait des enfants inadaptés, tout ça. Et on n'a parlé que de ça. Et quand on est sorti, l'agent, il est resté là, quoi? Parce qu'il s'imaginait qu'on allait parler du scénar. Et le lendemain, l'agent m'a appelé, il m'a dit, Gérard est d'accord. Et finalement, on était d'accord
sur la même longueur d'onde humaine.
Sur une longueur d'onde humaine.
On reçoit Liliane Némé-Pierre. Bonjour Liliane.
Bonjour.
Merci de venir à ce micro. Vous êtes psychologue, clinicienne et psychanalyste. Vous êtes connue des journalistes et du public pour vos livres « Peur du noir »,« Monstres et cauchemars » avec Françoise de Villers aux éditions Albin Michel. Ou encore « Cet enfant qui ne dort pas » toujours chez Albin Michel. Et plus récemment « Aimer ses enfants sans se laisser dévorer ». Mais on va revenir à la nuit. Pierre Richard nous offre ce petit éloge de la nuit. D'abord, elle a besoin d'éloges, justement. Elle a besoin de retrouver des lettres de noblesse.
Oui, je trouve que la nuit a besoin d'être réhabilitée aujourd'hui, où les nuits disparaissent de plus en plus avec
la
fée électricité.
Ah oui.
Ben, il n'y a plus de nuit, puisque toute la nuit, on peut faire plein de choses et rester éveillé. Donc le sommeil en prend un coup. Et nos nuits changent complètement.
Et les rêves aussi, à votre avis?
Comment?
Les rêves aussi.
Les rêves aussi, ben on dort de moins en moins. Donc les rêves sont moins nombreux. Je trouve que les adultes d'aujourd'hui sont un petit peu comme nos enfants. C'est-à-dire, vous savez, ces enfants qui le soir disent encore un bisou, oui, encore une histoire, encore. Et les adultes d'aujourd'hui, enfin, la plupart, hein, je dis pas tous les adultes, mais les adultes d'aujourd'hui sont un petit peu comme ça, dans la toute-puissance, où il n'y a pas de limite, encore un film, encore une série, moi j'arrive pas à m'endormir, moi je vais répondre à des mails.
Tout ça, on a peur de la nuit aussi, et c'est évoqué dans le spectacle de Pierre Richard, c'est-à-dire que la nuit, c'est l'amour, c'est la mort, c'est l'inconnu,
c'est le non familier, c'est l'énigmatique, et puis c'est surtout être, se retrouver avec soi-même. On n'est plus dans ces habits sociaux de la journée. C'est à la fois un espace de liberté où on peut se laisser aller, s'abandonner à ses désirs, à tout ce qu'on n'a pas pu faire
la nuit
dans la journée.
Désinhibe.
Désinhibe. Et en même temps, désinhibe certains et au contraire, angoisse d'autres.
Ouais.
Le gouffre de la nuit, malgré tout ce qu'on peut faire et toutes les lumières qu'on peut mettre et tout ce qu'on peut faire très longuement, angoisse énormément de gens et beaucoup plus qu'on ne le pense.
Elle est utile cette nuit pour exprimer justement la dualité que l'on peut ressentir.
Cette nuit, je pense, nous permet de nous trouver nous-mêmes. Les nuits résonnent des manques de la journée. Ça permet d'apprendre des choses sur soi-même. Et je pense que dans la nuit, il y a l'espace avant le sommeil et il y a le sommeil. Donc la nuit peut être complètement...
Oui, il y a ceux qui conseillent de revoir les événements d'une journée pour l'analyser, soit même s'aider à s'endormir.
Quelquefois, les événements de la journée n'aident pas à s'endormir, entravent la nuit. Et je crois qu'il y a autant d'êtres humains qu'il y a de nuits et qu'on ne peut pas généraliser. Et les nuits peuvent être entravées par les problèmes de sommeil. Est-ce que je vais réussir à m'endormir? Est-ce que je vais réussir à dormir? Est-ce que je vais me réveiller en pleine nuit?
C'est la même angoisse face à la mort. La nuit est une espèce...
L'angoisse de la mort, ouais. On associe souvent la nuit à une petite mort. Il y en a qui ont peur de ne pas se réveiller. Et tout à l'heure, vous parliez d'un sas dont vous aviez besoin pour rentrer... au théâtre, et nous, en général, on a besoin d'un sas pour plonger dans ce monde de la nuit, dans ce monde du sommeil, et entre le monde extérieur et le monde intérieur, notre monde à nous.
Les principales questions que posent vos patients autour de la nuit, en tout cas, viennent de ça, c'est-à-dire c'est la peur de la nuit,
C'est le noir, la plongée dans le noir. C'est plonger avec soi-même, face à soi-même. Il faut dire qu'aujourd'hui, on est tout le temps stimulé par plein de choses. On est très rarement dans le silence. On est très rarement seul avec soi-même. Et aujourd'hui, pour les adultes et pour les enfants, c'est un problème. C'est le seul moment où on se retrouve avec soi-même.
Mais que l'on soit enfant, je comprends la nuit, les enfants ont peur des cauchemars, ont peur d'être seul. Mais même adulte, on peut continuer d'avoir peur.
Oui, mais ça ne s'avoue pas facilement. Mmh. Et il ne faut pas oublier que nous sommes un des pays les plus grands consommateurs de somnifères. C'est donc que la nuit fait peur et qu'on ne sait pas très bien gérer la nuit encore. Bien pour les adultes que pour les enfants.
Il était donc temps de faire ce petit éloge de la nuit. Merci.
Exactement, et j'en remercie Pierre Richard de réhabiliter
la nuit.
La nuit.
Merci Liliane Nevé-Pierre. T'as peur la nuit, toi, tant qu'passion?
Oui, énormément. Chaque soir, j'imagine que je vais pas me réveiller le lendemain. Donc
et pourtant, tu as radio, donc tu dois te réveiller le lendemain. Et pour nous parler d'Étienne Chouard, qui est ce monsieur?
C'est un monsieur qui est encensé par tant de monde sur Internet, puisqu'il remet en cause le pouvoir et bouscule le discours de la bien-pensance, donc comme tout le monde sur Internet. Mais il est confus sur pas mal de sujets, il est même parfois moins clair dans sa tête qu'Ariel Dombal sous LSD. Le traite même de négationniste, vous voyez.
Ça va loin.
Ah oui.
Là, ça va mieux, là. Regardons les jours.
Je me suis réveillé ce matin, donc.
Pierre Richard est notre invité jusqu'à midi sur Inter. Qui est absolument formidable sur scène dans ce petit éloge de la nuit. C'est à la Scala à Paris jusqu'à la fin juin. Est-ce qu'il est prévu, puisqu'on a dit que vous aviez joué cette pièce il y a un an, un peu plus peut-être, deux ans, au Rond-Point. Est-ce qu'il est prévu de partir en tournée avec cette pièce?
On a fait aussi une tournée à l'époque. Maintenant non, parce que c'est pas prévu, puis j'ai pas le temps, mais je l'ai fait la tournée. Enfin, c'était pas une énorme tournée, mais on avait fait.
Quelques dates en province.
Mais ça veut pas dire ce spectacle, je sais pas, je dis dans un an ou dans deux, si c'est... Je prends tellement de plaisir à le faire et je sens tellement que les gens ont du plaisir à l'écouter que c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit je vais merveilleusement bien.
Le rêve et l'aquarium de la nuit.
C'est
par ça que cette phrase que vous ouvrez le spectacle. Et c'est vrai qu'on voit déjà dans l'univers dans lequel on va flotter, parce que c'est ça aussi.
Alors j'imagine ces nuits intérieures qui projettent sa fascination. C'est vrai que la nuit est fascinante. C'est vrai que je dis des très beaux textes de Ingrid, bien sûr, et je vous l'ai dit. Et puis alors
il y a des citations à l'intérieur de ces textes aussi. Hein, il y a des citations, il n'y a pas que des textes originaux. Il y a des phrases qui sont empruntées, notamment à Cyrano de Bergerac.
À Cyrano de Bergerac, bien sûr, puisque il va rejoindre la Lune.
Il y a d'autres auteurs comme ça qui sont glissés, que j'ai pas repéré.
Il y a Maupassant, très beau texte aussi. Parce que là, je m'en rapproche évidemment, Michaud, Plume. Plume qui s'aperçoit tout à coup que son mur n'est plus là et dit tiens, les fourmis l'auront mangé, puis il s'en rendort.
Et c'est puis, pardon, il y a Alain Bachung aussi. Ouais.
Et alors ?
La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine.
C'est, il est magique, tout le monde adore Bachung. Et en plus de ça, moi, je m'en réjouis de l'écouter tous les soirs. Et je ne me lasse pas. Et je suis dans mon petit trou avec, là, j'ai la permission. Je bois du champagne et je fume un cigare. Et la fumée avec la chanson de Bachung va très bien.
Alors, le petit trou...
D'ailleurs, je ne devrais pas vendre cette image.
Le petit trou dont vous parlez, c'est une espèce de baignoire. Je ne sais pas comment on peut la qualifier. En termes de théâtre, on appelle ça une piscine, d'ailleurs. Mais elle est plus petite.
Qui
permet d'apparaître et disparaître.
Qui me permet d'apparaître ou de disparaître, d'être seul avec moi-même dans la nuit.
Comme dans un lit aussi, quelque
comme
part.
Comme dans un lit. D'ailleurs, des fois, je m'y couche. Mon problème, c'est que j'ai une aiguille. Je ne sais pas pourquoi, il y a toujours une aiguille qui me pique en dessous. Je sais pas, parce qu'à un moment donné, je me sers de l'aiguille, mais je la lâche. Et après, je me couche et... Oh, mais sinon... Agnès, Marie-Agnès Gillot, danseuse étoile de l'opéra, qui danse sublimement bien, évidemment, qui est mon fantasme, il est toujours dans mon dos. D'ailleurs, je regrette parce que je la vois jamais, moi. Le spectateur la voit et moi, je suis justement, elle est dans mon dos.
Oh, comme elle est projetée, je pense que vous pouvez demander une copie des images pour vous.
Oui, puis de toute façon, dans la répétition, quand même, je me permettais de jeter un œil, mine de rien. Mais il me dit, non, tu dois pas te retourner. Voilà, bon. C'est comme Yves Robert, on veut jamais que je regarde des jolies femmes, je sais pas ce qui se passe. Et Marina Joule est vraiment d'une éblouissante. On dit des fous. Jean-Claude Van Damme, même, je cite.
C'est vrai.
C'est mon petit plaisir.
Ah, je l'ai pas remarqué celui-là. C'est
non,
quoi
ben ça non. Parce que.
Vous le soulignez pas en tout cas que c'est du Van Damme.
Hein? Si, je le sais moi.
Non, vous ne le soulignez pas.
Je ne le souligne pas, mais je ne souligne aucun des auteurs. C'est parce que là, non, parce que c'est juste l'espace d'un moment.
C'est quoi la vanne?
La vanne?
Sur Van Damme, où il dit quoi?
Il dit, si vous couchez, si vous rêvez pendant que vous dormez, vous rêvez que vous dormez, il faut se réveiller deux fois pour vous lever. Faut comprendre, hein.
Là, c'est un génie, c'est pas toujours
c'est
accessible.
C'est pas mal. Marie-Agnès Gillot d'un côté, Van Damme de l'autre. Voilà. On a le grand écart de Pierre Richard.
Mise en scène Baudelaire, Shakespeare.
Voilà. Quel honneur pour Baudelaire, non?
Voici Tanguy Pastureau. Tanguy, vous allez nous parler de négationnisme.
Oui, le négationnisme, c'est très con, hein, un peu comme ceux qui le pratiquent d'ailleurs. Ça consiste à remettre en cause des faits historiques. Ainsi, les racistes, ces gens qui aux Antilles aiment juste Philippe Laville, hein, vous diront des membres du Ku Klux Klan qui sont un peu frileux du visage et que c'est pour ça qu'ils brûlent de grandes croix avec des cagoules, comme à Morzine si la descente au flambeau était totalement partie en sucette. On peut aussi nier les découvertes de Galilée et affirmer que la Terre est plate. Certains le font, hein, en 2019, on les appelle les plates. Les types imaginent qu'on vit sur un grand disque plat, tel des puces de mer sur un frisbee. Les négationnistes peuvent vous expliquer que la Saint-Barthélemy, c'est un chabit qui a mal tourné, car il ne faut jamais jouer à ça avec une épée, vous diront-ils. Ou que c'est Anne Hidalgo qui, en 63, à l'âge de 4 ans et demi, a assassiné JFK parce qu'il se déplaçait en ville dans une grosse voiture essence. Mais en réalité, le négationnisme s'applique surtout à la Shoah. Hein, 75 ans plus tard, on est encore là-dessus à se chamailler. A-t-elle eu lieu? Est-ce un complot juif pour aboutir à la création de l'État d'Israël et donc par rebond à celle de la soirée mousse à Tel Aviv entre Goethe et BM. Adolf Hitler n'était-il finalement pas une belle personne, comme on dit dans les télé-réalités d'un candidat qui aurait nettoyé par trois fois la piscine de la villa afin d'en tirer les bouts de cervelle de ses congénères qui ont giclé quand a été sorti un Becherel. Non, dans 150 ans, alors que Benoît Hamon, suite à sa 27e défaite électorale, se sera décidé à prendre un vrai métier, on en sera encore à nier la Shoah. Parce que les négationnistes, à chaque fois qu'un rescapé des camps témoigne, leur cerveau se met sur off. Comme Émeric Caron quand en soirée people il croit Cyril Lignac qui lui propose du riz de veau. Exemple cette semaine, le média, la web télé des gens de gauche, dont Christian Clavier ne soupçonne même pas l'existence, a invité Étienne Chouard. Alors c'est un type qui sur le net est plus populaire que le vomi dans le monde du rock. Et certains France Insoumise sont quasiment venus twerker contre son pelvis juste parce que comme eux, ils militent pour une démocratie directe. C'est-à-dire qu'on met l'Élysée en vente à la découpe, on place Mélenchon à la place de Macron et on garde Brigitte qui lave ses slips. Bref, Chouard est interviewé est interviewé par Denis Robert, hein, le journaliste qui envisage sa vie sans peigne, qui lui demande s'il doute de l'existence des chambres à gaz, parce que le gonze entretient la confusion. Chouard répond, vous voulez que je dise quoi? Que les chambres à gaz ont existé de façon tranchée? Je peux le dire si vous voulez, mais je n'ai rien lu là-dessus. Ce qui, dans les réponses claires sur le sujet, est à moins 500 sur une échelle allant de 1 à 4. Hein, c'est même moins clair que l'anus d'un ours brun. Enfin, on n'a pas besoin d'avoir lu 200 bouquins sur les camps pour capter qu'ils ont existé. Auschwitz, quand vous y allez, vous voyez de suite qu'on n'est pas sur les vestiges d'un Center Park. Hein, moi, j'ai jamais lu la Bible, pour autant, je sais que Dieu existe, parce que la pizza 4 fromages et le clip de la chanson Beautiful, dans lequel Maria Carey fait de la moto en mini-short, procèdent forcément d'une intention divine. Mais aujourd'hui, on ne croit plus que ce qu'on voit ou ce qu'on a expérimenté soi-même. À titre personnel, j'ai longtemps douté de l'existence de Pierre Richard. Hein, je le voyais que dans les films, je prends l'assiette, je lave l'assiette, je pose l'assiette, moi ça me suffisait pas.
Hein. Et là maintenant, vous y croyez enfin?
Eh ben oui, parce qu'il est là, il nous parle. Ou alors c'est un hologramme super bien fait. Hein, c'était le premier héros Pixar et personne n'en sait rien. Tiens, Fly Rider, le couillon qui à l'époque des Gilets jaunes se filmait dans sa buanderie en se prenant pour Robespierre. Pareil, il avait dit les attentats de Strasbourg, moi je crois ce que je vois. Or si on fait tous comme ça, moi concrètement, je ne vais croire qu'en vous, Nagui, et en Netflix le soir. Alors vous, j'en suis à la deuxième saison
c'est
déjà.
Ça, ouais.
Et là, c'est très bien, très bon scénario. Et là, Étienne Chouard, sur d'autres sujets, est sûrement très bon, hein, parce que pour plein de gens, c'est un gourou. Si demain il dit allez tous voir Roland Magdan, le mec redevient numéro un des ventes sur Billets Réduc. Mais sur les chambres à gaz, il s'est pris le pied dans le plus gros tapis qu'il y a chez Saint-Maclou. Il a dit la Shoah, il suffirait d'en faire la démonstration. Mais enfin, ça a été démontré. On a saisi les archives des nazis, le commandant d'Auschwitz en personne a expliqué ce qui s'y passait. Les industriels allemands de l'époque ont dit on était au courant. Donc je pense qu'Étienne Chouard, comme source, a vu une fois la grande vadrouille et on a déduit qu'en 42, le grand fait d'armes des SS, c'est d'avoir tourné sur des chaises autour d'une table un soir au resto. Alors de là à dire qu'il est négationniste, comme tout le monde l'a écrit dans une unanimité touchante, peut-être pas, mais au minimum, il est dans le brouillard. Hein. Vous entrez dans un hammam où des types fument la chicha autour de pneus en feu, lui est tout au fond, derrière. Alors épilogue hier sur sa page Facebook, Chouard a écrit « Je ne suis pas négationniste ni antisémite, les chambres à gaz sont une horreur ». Il a même traité Robert Forisson, la star du négationnisme, hein, de menteur. Il était à deux doigts d'écrire Philippe Pétain, gros méchant. Hein, donc pour avoir une pensée limpide, il faut en fait qu'il soit sur son ordi. Hein, si le truc plante, il se met à hurler « Ah, je sais plus, est-ce que Simone Veil n'était pas un poil mytho? Il faut que je me documente. Je vais mater la 7e compagnie au clair de lune. » Non mais ça doit être Denis Robert qui l'a troublé. Hein. Le type ressemble à Dale dans The Walking Dead après qu'il s'est fait mordre par les zombies. Une fois rentré chez lui, il a retrouvé ses esprits. Et à tous ceux qui sont négationnistes parmi nos auditeurs, il y en a sans doute bien sûr. Eh bien, bonne nouvelle, on peut en sortir. Ça fait un bon quart d'heure que moi-même, je crois en Pierre Richard. Enfin, quasiment. Je ne sais pas si je peux vous toucher, mais...
Merci,
sur France Inter.
On vous demande souvent comme ça autorisation de vous toucher ou pas dans la rue. Hein? On vous demande autorisation de vous toucher.
Pardon. Oui, en Russie, des fois, ils me touchent comme si j'allais les guérir un peu.
Mais c'est vrai que vous êtes un dieu vivant là-bas pour chez nous aussi. Mais
j'ai quand même guéri 3 aveugles.
Tu les connais, Nagui.
Pourquoi Pierre Richard? Pourquoi doutez-vous autant de vous?
Bon, un peu moins maintenant.
Bah non, excusez-moi, enfin depuis ce matin, tout ce
depuis
que vous
ce
dites.
Matin,
non mais là, non, là déjà de ce matin.
Le pouvoir de Nagui.
Vous avez commencé en disant, vous rendez compte, un metteur en scène shakespearien, vous rendez compte, un auteur qui publiait chez Gallimard, vous rendez compte, une danseuse étoile, vous rendez compte, comme si vous n'aviez pas le droit de fréquenter ces gens-là ou travailler avec eux, et comme si eux ne vous admiraient pas et n'avaient pas envie de partager cette scène avec vous.
C'est une façon de parler, mais c'est une façon de parler, mais
c'est quoi, c'est une fausse modestie.
Je me sens plus, si vous voulez, s'il y a des tiroirs.
Ouais.
Je me sens plus dans les tiroirs de Keaton, de Chaplin ou de Jacques Tati. Donc, et pour moi, c'est pas réducteur, au contraire.
Ou de James Sirier, que vous avez évoqué tout à l'heure.
Et avec quelques exceptions, comme ça, comme Michel Bouquet, qui n'est quand même pas, on peut pas dire, Keatonien ou Jacques Tati. Mais ma vraie famille, je la revendique, donc j'en suis fier, bah, c'est Keaton, Chaplin, c'était Daniquet, et c'est Jacques Tati.
En même temps, parce qu'il faut
dire, ça veut dire que l'univers de Jacques Tati me semblait pas être celui d'un Shakespearean, mais c'est faux, la preuve.
En même temps, c'est joli votre capacité d'émerveillement permanente. Vous l'avez pas quitté, vous l'avez pas perdu.
C'est peut-être, je donne ce conseil-là à tout le monde, tous les êtres vivants, qui gardaient leur capacité d'émerveillement.
Oui.
Ça leur fera gagner 10 ans de leur vie, je crois. C'est mieux qu'un médicament.
Ouais. Petit éloge de la nuit. T'es directement concernée, Leïla,
oui,
en arabe.
Et ouais, Leïla, c'est la nuit. C'est Leïla, en arabe, c'est la nuit.
C'est la nuit. Oui, oui.
C'est l'ivresse de l'amour, l'ivresse de la nuit. Donc c'est un peu pour moi ce spectacle.
Non, pourtant, c'est l'ivresse. Toi, c'est l'ivresse tout court.
C'est l'ivresse tout court aussi.
C'est beau ce qu'elle dit, laissez-la s'exprimer.
Merci, Pierre. Vous devriez venir tous les jours.
Bon, ça va comme ça.
Non, mais c'est qu'ils sont jaloux. C'est parce que Daniel, vous voyez bien que tout d'un coup, à côté, ça ne veut pas dire grand-chose.
Ça veut dire rosé en ça veut dire rosé 12 degrés.
Rosé frais.
Cubi.
Rosé du ciel, mais rosé de la terre.
C'est ça, exactement.
Cubi prestige.
En tout cas, Daniel, on voit bien.
Ah, ça y est, il me parle maintenant.
On voit bien avec ce petit.
Qu'est-ce qu'on voit?
Avec ce petit éloge de la nuit, que ce moment de la journée reste particulier, singulier, à la fois domaine des possibles et espace sans limite. Des moments de dérive, de lâcher prise, une terre de liberté, mais aussi de folie. Ça rend presque poète de voir.
C'est un cauchemar, réveillez-moi. Oh, puis non, laissez-moi dormir. Non, pas dormir, j'ai mieux. Laissez-moi crever. Je veux partir. Adieu, monde de merde. Monde qui autorise le lutin d'Alexandrie à se lancer dans la poésie ne mérite pas d'être sauvé. À moi, les foudres d'Armageddon. Venez me transpercer le cœur et réduire en cendres cette planète qui sent la putréfaction. Rien ? Bon, monde de chiottes, faut vraiment tout faire soi-même. Léla, file-moi ta Kalachnikov que je rafale tout ça. Baissez la tête, Pierre Richard, vous êtes la seule personne ici qui apporte un vent de fraîcheur. J'en peux plus de vos niaisitudes, monsieur Guy. J'en peux plus, le dégoût m'habite. J'ai la glotte qui baigne dans un océan de reflux gastrique non maîtrisé. Et que la nuit est un domaine des possibles, un espace sans limite. Ni, 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 ni. Et des heures de dérive, de lâcher prise. Ni, 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 ni. Une terre de liberté, mais aussi de folie. Ni, 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 ni. Ce qui n'a pas de limite, c'est votre bêtise cosmique, stratosphérique. Laurent, vos critiques, hein? Et puis, qu'est-ce que vous parlez? De quelle nuit parlez-vous, monsieur Guy? Hein? J'aimerais savoir. Celle des gens simples comme moi? Des gens simples qui, après avoir travaillé 14 heures, rentrent chez eux, à pied, pour faire le ménage, nourrir les enfants. Et encore, quand je dis nourrir les enfants, je parle de ceux qui ne sont pas morts de froid ou de chagrin. Gens simples qui, comme moi, après les tâches ménagères et en bon chrétien, doivent accomplir leur devoir conjugal en besognant maman quand ils en ont encore la force.
En besognant
non,
maman.
Non, non, oui, c'est de la besogne, monsieur. C'est de la besogne. Non, la nuit qui vous est familière, c'est celle des milliardaires, celle des paillettes et de la drogue et du sexe tarifé. Une nuit dont les éloges ne pourraient provenir que d'une académie de médecine spécialisée dans les addictions aussi dégueulasse que transmissible et où il n'y a pas de place pour la décence et encore moins pour la vertu. Désolé, monsieur Guy, mais une fois encore, mon petit bonhomme, vous avez dit...
N'importe quoi !
C'est ça.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Mais c'est le roi lire, il faut qu'il joue le roi lire.
Il fait, je sais pas, mais il faut qu'il sorte d'ici.
Amanda lire.
Amanda,
en suçant mon pouce, j'écoutais un m'endormant.
C'est vrai que la musique est très présente dans ce spectacle et cette chanson douce.
Oui, elle est belle. Hein.
Elle est formidable.
Tu voulais la chanter
bien.
Parce
qu'à un moment donné, je parle justement des terreurs des enfants dans la nuit et je dis...
Et vous la chantez?
Je la chante, mais sans la musique d'ailleurs, c'est dommage. Ça m'aurait aidé.
Et non, c'est encore plus, je trouve ça encore plus joli à capella.
C'est plus touchant comme ouais, ça, oui. Absolument, c'est plus touchant. Ouais. Et parce que je parle de la terreur des enfants dans la nuit, des monstres qui apparaissent, ouais. La mort du soleil est une. Et j'ai dit heureusement il y a le rempart des doudous. Et d'ailleurs j'ai une couverture.
C'est génial, l'armée des doudous.
L'armée des doudous. Ouais. L'armée des doudous est un rempart. Voilà, et je chante une chanson douce que m'a chantée ma maman. Enfin voilà, comme un enfant.
Et c'est tellement vrai. On s'est tous abrités derrière son doudou de peur du monstre du placard ou du peur du monstre qui est sous le lit. Voilà, c'est ouais. Ça. On a, ouais. Et c'est là où c'est fort, c'est que ça nous parle. On s'évade. Et il y a ces films, donc, alors parlons de cette mise en scène où il y a beaucoup de séquences filmées, soit avec vous, soit avec notamment
Marianne Agilot.
Merci Marianne Agilot qui danse derrière vous sur scène.
Ah oui, il y avait aussi. Oui.
Mais vous êtes dans un comme sur une île entre guillemets, un îlot. On comprend après qu'on est à marée basse sur un lit avec l'eau qui monte.
Mais ça c'est chez moi ça parce que je suis entouré d'étangs. Et quand dans le midi et quand il y a toujours du vent et quand c'est du vent du marin, l'étang monte et quand ce sont des vents du nord, pendant 3 jours il y a du vent du nord, l'étang se vide pas complètement heureusement, mais je veux dire elle perd du terrain et tout à coup apparaît une petite île qui était sous l'eau il y a 3 jours avant. Et là, quand on a vu ça, on dit, il faut qu'on tourne là. On a installé, je me souviens, on a porté des... Parce que c'était pas une équipe de cinéma, on était 4, hein. On a porté les lits, un lit qu'on a mis sur les...
Ouais, le bon vieux lit, bien lourd en fer.
On a porté le lit, et on a apporté une petite lampe, une petite table de nuit, et j'étais dans mon lit comme si j'étais dans ma chambre. Dans la nuit, c'est beau. Et c'était tourné comme ça dans la nuit, et puis nuit américaine.
Non, et puis c'est beau d'avoir cette eau qui monte, et vous qui restez interrogé par ce qui se passe.
Parce qu'à un moment donné, l'île a disparu, et il n'y a plus que le lit qui émerge, et moi qui suis sur le bord du lit.
Et un tableau, qui passe.
Les pieds dans l'eau. On avait le goût, Gérald et moi, aussi, de l'onirique, du surréalisme. Et il y a des plein d'images comme ça, complètement surréalistes, parce qu'on a un goût aussi sur Magritte, les grands peintres, oui. Et notamment Magritte, qui est mon peintre préféré. Et donc, on a aussi des images de Magritte. Voilà. Tout ça, ça part comme ça dans tous les sens de la nuit, puisque Magritte était quand même le peintre de la nuit.
Avec cette musique de Laurent Petitgand. Le spectacle s'appelle Petit éloge de la nuit, Pierre Richard seul en scène et pourtant avec tellement de monde autour ou dans la tête en tout cas, et toutes ces rêveries qui font du bien, parce que ce spectacle fait du bien, il est jusqu'au 30 juin seulement, donc dépêchez-vous, à la Scala. Parmi les projets à venir, il y a un spectacle que vous préparez avec Mathilde Lamé, qui a récemment reçu un Molière d'ailleurs pour son dernier.
Oui, mais c'est je dois dire que ce projet était un mois avant les Molières, donc c'est pas.
Non, je parle pas d'opportunisme. Je rappelle qu'elle a reçu.
Non, mais on a bien compris. De par Dieu, Mathilde Lamé, ça va. On sait que vous savez vous placer, Pierre. Hein.
Oui, physiquement, je préfère Mathilda.
Quel sera le sujet du spectacle?
Bon, ben si vous avez eu le banquet, c'est quoi son genre de spectacle? C'est burlesque, c'est poétique.
Muet.
C'est muet. Burlesque, muet, poétique, beaucoup de musique, beaucoup de bruitage. Et ça a donné le banquet qui a eu donc ce prix de la mise en scène. Et elle veut faire ça, mais avec moi. Et quand j'ai cru qu'elle m'introduirait dans sa compagnie, mais non, c'est moi tout seul. Ah. Elle a écrit 15 pages, et puis maintenant, chaque fois qu'on se voit, elle me dit des choses je suis ébloui comme un enfant. Parce que c'est en plus c'est de la magie, c'est drôle, mais en même temps c'est parce que les effets spéciaux cinéma on peut tout faire, hein. Ouais. Tandis qu'au théâtre je me dis mais comment tu fais ça? Alors elle a à faire avec des grands spécialistes de
jouer sur scène.
Et puis moi,
seul
d'être muet, j'adore. Hein.
Vous avez pas peur que quelqu'un
vous dit tout à l'heure, moi je parle mieux, c'est.
Vous avez pas peur de quelqu'un dans la salle qui se lève en disant plus fort?
On sera là.
Malheureusement, j'aurais tellement adoré que Carmen soit là, mais je fais pas du mime, il aurait aimé.
Vous avez prochainement tourné dans le nouveau film de Kéron. Vous allez jouer tout. Mais oui, vous allez jouer qui ou quoi?
C'est Brutus contre César, c'est ça le film?
Alorix, je suis un druide. Parce que ça se passe au milieu du temps des Romains et des Gaulois. J'ai eu un coup de fil de Kéron il y a pas mal de temps, qui m'a dit « je vous aime beaucoup ». J'ai dit « moi aussi, je m'aime beaucoup ».
Et il m'a dit, au moins vous êtes d'accord, c'est bien pour travailler ensemble.
On est d'accord tous les deux sur moi. Et il m'a dit « j'aimerais tellement que vous soyez ». Alors je vais tourner avec lui à Casablanca d'ailleurs, à bientôt. D'ailleurs, il serait temps de me le rappeler, parce qu'il faut que j'apprenne mon texte. J'ai du texte, notamment.
Puis de prendre un avion, non?
Hein, je prends un avion.
Vous allez retrouver un copain de la bande originale, Guillermo Guise joue également dans le...
Oh, bah, il y en a plein des copains, je crois. Il y a Thierry Lhermitte. Tiens, je crois qu'il y a Jean-Claude Van Damme. Je pourrais lui demander quelques... Bon, enfin, bref, il y a plein d'autres...
Quelques pensées philosophiques. Demandez-lui s'il a vraiment dit, le jour où il n'y aura plus d'air, les oiseaux tomberont.
Il a dit ça, oui, je oui, crois. C'est pas beau ça,
je crois.
Je vous dis.
Mais en tout cas, c'est pas faux.
Hein, d'abord. C'est du De Vos.
Le cinéma, vous avez toujours autant d'appétit pour le cinéma, toujours autant.
Ah oui,
envie
autant,
d'en faire.
Oui. Je C'est vrai que j'adore le théâtre. Là, je suis vraiment heureux. Il y a du monde et tout ça. Au cinéma, c'est beaucoup plus abstrait parce que finalement, quand le film sort, on n'est pas là tous les soirs. Au contraire, on n'y est là même jamais. Des fois, je me souviens pendant La Chèvre, on faisait 40 000 entrées dans la nuit, mais j'étais dans mon lit en disant, mais je sens rien. rien.
Non, Nagui, non.
J'avais des chiffres, c'est abstrait.
Non.
Hein?
Non, rien. Est-ce que.
Voilà, il y a quelque chose.
Non, fallait pas. C'est bien, ils sont retenus aujourd'hui.
Est-ce que c'est vrai que vous avez proposé un film et que vous n'avez pas réussi à le monter, à le produire?
Oui, en ce moment d'ailleurs.
Mais c'est dingue ça. Comment vous, Pierre-Richard, vous n'arrivez pas à monter
Parce que j'ai compris une chose qui n'existait pas il y a 40 ans et que j'avais pas prévu, c'est que maintenant, même les grosses sociétés, les plus grosses sociétés françaises, se retournent vers la télévision. Moi, à l'époque, quand Alain Poiret de la Gaumont me disait on fait. Si Claude Berry me dit on fait. Ou Yves Robert, ou même moi.
Toutes les chaînes sont, tous les films sont coproducteurs
maintenant,
avec les chaînes.
Maintenant, vous faites un film que si la télévision dit oui.
C'est vrai.
Bah, si elle vous dit non pour des raisons X, que vous ne savez pas d'ailleurs, moi c'est peut-être parce que c'est mon côté contestataire, peut-être que je déplais sur certains points. En tout cas, la télé, on dit non, on me dit non.
Et si vous demandiez à un producteur bien introduit dans le milieu de la télé, on ne sait jamais, ça peut peut-être se dégoupiller.
Là, tu me fais rêver.
Bah oui.
Faut qu'on se parle tous les deux.
Ah bah voilà.
C'est pas très cher le film, c'est 4
millions. Non, c'est pas le problème, faut qu'on se parle.
Hey, 10%. Hein.
Trop tard. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Désolé pour la Russie contemporaine, la Russie éternelle, la grande Russie, le peuple russe et son divin président qui ont été caricaturés, moqués, insultés par les gauchos écolos, Nagui et Pierre-Richard. Croyez bien, cher Vladimir, que j'en suis désolé, navré, que jamais, au grand jamais, moi, je ne critiquerai votre pays et votre sens immense de la démocratie. Si vous aviez pour moi un petit boulot hyper bien payé et fictif sur Rocha Today, croyez-vous bien qu'en permanence, je chanterai vos louanges. Bisous, Tovarich. Désolé pour le chef Raoni qui nous écoute tous les jours, je le sais, et qui, naïvement, a été touché par le soutien apparent de Pierre Richard et de Nagui. Alors, ça, c'est ce qui s'est dit à l'antenne. En vrai, à la pause, ils ont été odieux. Ils se sont moqués de vous, de
jamais,
vos bijoux,
jamais.
De vos farces, de vos fringues, de votre lèvre inférieure. Et ils ont même prévu d'aller bouffer une côte de bœuf brésilienne de Nutella à 13h à la Cantoche. Bande d'escrocs.
Plutôt crevé. Merci mille fois, Pierre-Richard.
C'est
merci,
moi qui vous remercie.
Bravo pour ce que vous faites.
C'est
petit éloge de la nuit. Et ça fait du bien, encore une fois, je le redis. C'est à la Scala jusqu'au 30 juin. Demain, Riad Satouf sera notre invité pour parler des cahiers d'Esther. Passez une bonne journée sur Inter avec les carnets de campagne de Philippe Bertrand.
Bonjour Nagui, bonjour les amis.
Salut.
Je suis un peu à la bourre, mais je vous laisse quand même avec une autre citation de Jean-Claude Van Damme.
Vas-y.
Si tu téléphones à une voyante et qu'elle ne décroche pas avant que ça sonne, raccroche. C'est excellent. C'est excellent. Génial.